France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements, des lieux incontournables sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, d'aller visiter un musée vraiment pas comme les autres. Un musée consacré à un homme rentré dans la légende, une œuvre immense, un musée pour découvrir ou redécouvrir le talent d'un génie de la mode, le musée Yves Saint-Laurent, avenue Marceau à Paris dans le 16e. Qui présente d'ailleurs depuis quelques semaines une nouvelle collection, notamment celle de 1965, les célèbres robes Mondrian. Et pour en savoir plus sur ces collections, sur ce musée, sur l'histoire de ce musée, nous sommes aujourd'hui avec Aurélie Samuel, directrice des collections du musée, et Mélissa Netto, guide pour Cultival.fr du musée Yves Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue mesdames.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors quelle est donc l'histoire du lieu? Que fut-il avant d'être le musée Yves Saint-Laurent? Pourquoi cette collection de 1965 fut-elle un événement qui révolutionna la mode? Quelles sont les merveilles proposées sur les trois étages du musée? On va tout vous dire. Alors avant de s'intéresser à cette fameuse collection de 1965 et aux autres œuvres présentées actuellement, moi je voulais qu'on raconte un petit peu l'histoire du lieu. On est 5 avenue Marceau à Paris dans le 16e. Quand et pourquoi Yves Saint-Laurent a-t-il décidé de s'installer à cette adresse? Qui répond?
Alors, il s'installe en fait à cette adresse avec Pierre Berger. Ils installent la maison de couture en 1974. La maison est créée en 1961, rue Spontini, et défile la première collection. Voilà, pas très loin, défile la première collection au printemps-été 62. La maison va se développer, évidemment, et chemin faisant, il faudra un lieu plus grand, plus pour pouvoir permettre, évidemment, de développer tous les services, tous les ateliers. Donc, il déménage dans cet hôtel particulier en 1974, ce qui permet, évidemment, de concevoir la totalité des collections haute couture et prêt-à-porter à l'intérieur de ce lieu.
Comment est-il organisé ce lieu de travail? Il y a plusieurs étages. Alors, on le visite avec Cultival.fr ou sans Cultival.fr. Et on visite pas tout. On visite trois étages, c'est ça, Mélissa?
Non, on visite pas tout exactement parce qu'il y a certains espaces qui sont réservés à la conservation, à la restauration. Donc, effectivement, on va se concentrer sur quelques étages et pas des moindres, hein, parce qu'on arrive quand même dans les salons, ce qui était les salons haute couture à l'époque de la maison Yves Saint-Laurent. Donc, un lieu très beau, un passé chargé.
Ça, c'est le premier haut des escaliers.
Hein. Voilà, exactement. D'accord. C'est le premier haut des escaliers quand on part sur la gauche, effectivement. Ouais. Vous avez un petit espace qui est aménagé pour laisser nos affaires, prendre le temps avant, après la visite, de discuter, de se remémorer un petit peu ce qu'on vient de voir dans le musée. Et après, il y a une salle, le grand salon, qui était donc un lieu pour les défilés, principalement, si je me souviens bien, ainsi que les accessoires. De temps en temps, le Louvre de la Falaise venait montrer les accessoires également. Aujourd'hui, actuellement, avec cette troisième rotation qui nous permet de montrer les fonds, de valoriser les fonds, finalement, du musée Yves Saint-Laurent, ça nous permet de voir, effectivement, comme vous en avez parlé, de 1965, de la robe cocktail, qui s'est appelée ensuite, grâce à la presse, entre autres, la robe Mondrian.
Voilà, donc
belle rétrospective.
Alors à l'époque, donc, je monte les escaliers, là ce sont des salons vraiment pour présenter les collections, hein, simplement.
Oui, le rez-de-chaussée est vraiment consacré aux clientes, en fait, à la réception des clientes. Oui. Et vous avez raison de le préciser, en fait on a voulu garder dans ce musée justement l'esprit de la maison de couture. Mm-hmm. Donc on a gardé une partie des salons qui correspondait exactement à la boutique accessoire. D'accord. C'est important que le public, si vous voulez, se projette aussi dans cette histoire de cette maison, dans une forme de maison musée intimiste. Ensuite, au premier étage, il y avait le studio, le fameux studio qui a été intégré dans le parcours au moment justement de l'ouverture du musée, ce qui n'était pas le cas au préalable lorsque la Fondation Pierre Berger présentait des expositions. Le studio, c'était vraiment le cœur de la maison. C'est là que Saint-Laurent finalement créait toutes les collections avec ses très proches collaborateurs. Et puis vous aviez l'étage juste au-dessus qui était l'étage des ateliers.
D'accord.
Où toute la confection se faisait, répartie en ateliers tailleurs et en atelier flou.
Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là, j'imagine, une majorité de femmes.
Oui, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait au grand moment de la maison, il y avait jusqu'à 200 personnes qui travaillaient dans la maison.
D'accord.
Alors, faut pas oublier qu'il y avait deux collections de couture par an, deux collections prêt-à-porter. Il y avait aussi des intercollections. Ouais. Tous les dessins des accessoires se faisaient à l'intérieur. Donc, c'est très court, en fait, un temps de collection. Faut un mois et demi pour faire une collection. Donc, il faut quand même un certain nombre de couturières pour pouvoir, évidemment, créer toutes les pièces, tous les prototypes, en fait, pour le défilé.
Et au dernier étage, Aurélie, je sais qu'il y avait un étage supplémentaire.
Il y avait la cantine.
Je me suis imaginé Yves Saint-Laurent allant avec son plateau manger avec ses ouvrières, peut-être pas quand même.
Bon, je ne suis pas sûre.
Non, je ne suis pas sûre. D'accord, ok. Très bien, très bien. Oui, parce que les défilés à l'époque se déroulaient effectivement dans cet endroit-là. Il n'y avait pas tous ces grands shows qu'on voit aujourd'hui dans des lieux exceptionnels, des musées. Récemment, se souvient de lieux exceptionnels. À l'époque, jusqu'à quand d'ailleurs la haute couture se faisait dans des endroits vraiment obligatoirement pour les clientes ou les journalistes.
C'était c'est justement Saint-Laurent, en fait, hein, qui lance cette idée du grand défilé en 1976 pour la collection Opéra Ballet Russe, ouais. Où il loue un salon de l'hôtel Intercontinental. Et c'est vraiment lui, justement, qui va transformer finalement ce défilé en espèce de show avec de la musique, etc. Mais c'est vrai qu'auparavant, c'était vraiment dans la maison de couture avec, je dirais, une présentation un petit peu compassée. Ouais. On annonçait le numéro de la robe. Il y a quelque chose d'assez formel. Et en fait, ça s'est totalement transformé à partir de 1976.
D'ailleurs, je fais un petit aparté. Quand on rentre dans le musée, il y a sur une façade, il y a plein de documents et il y a à un moment donné un plan des sièges avec le nom des clients ou des clientes en majorité qui sont là. Et on s'imagine effectivement que c'était moins le grand show et plus un côté un peu intime entre...
Intime, oui, mais
il y avait moins de téléphones qui prenaient des photos aussi à l'époque.
Sans doute, mais c'était très organisé tout de même.
Ouais, hein.
Chacun était vraiment placé. Il y avait les fournisseurs d'un côté, les clientes de l'autre. Enfin, je veux dire, il y avait tout un protocole aussi qui était très respecté, même dans les maisons de couture.
Et sûrement moins de journalistes. Depuis 2017, effectivement, cet immeuble du 5 avenue Marceau, qui a vu naître des milliers d'œuvres signées Yves Saint-Laurent, est devenu un musée. Alors, comment le visite-t-on ? Qu'est-ce qui est exposé en ce moment ? On vous en parle dans 3 minutes.
France Bleu Paris. France Bleu.
Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't do it.
Relax, Frankie Goes to Hollywood sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Vous avez peut-être croisé les affiches dans les couloirs du métro, dans les rues. Ces dernières semaines, on y voit un mannequin, cheveux assez courts, portant une robe droite constituée de rectangles. Alors il y a du blanc, du rouge, du bleu, du jaune, qui semble finalement une robe assez simple. Et pourtant, cette robe signée Yves Saint Laurent a révolutionné le monde de la mode. Pour la voir en vrai, il faut aller au musée Yves Saint Laurent, 5 avenue Marceau à Paris dans le 16e. Et pour comprendre l'importance de cette robe, nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, avec Aurélie Samuel, directrice des collections du musée Yves Saint Laurent, et Mélissa Netto, guide cultival du musée. Cette robe de collection, c'est la collection automne-hiver 1965. Et son histoire, c'est vraiment quelque chose de très important dans le parcours d'Yves Saint Laurent. Est-ce que je me trompe, Aurélie ?
Non, c'est pas seulement d'ailleurs dans le parcours d'Yves Saint Laurent. C'est une collection qui a vraiment révolutionné la mode, dans le sens où c'était vraiment la première fois que un artiste, un couturier, mais j'allais dire effectivement un artiste, proposait une transposition d'un tableau.
Oui.
La mode et l'art, bon, on très souvent, si vous voulez, se sont très souvent renvoyés en fin de compte des éléments. Il y a eu beaucoup de couturiers qui ont été inspirés par l'art, et l'art qui a été inspiré par le textile, par le costume. Là, ce n'était pas simplement une influence d'un motif ou d'un artiste, mais bien une transposition d'un tableau. C'est-à-dire un passage du 2D vers le 3D, où la problématique finalement, c'est comment porter une robe sur soi. Et ça, c'est vraiment une appréhension, si vous voulez, de l'art, une compréhension de l'artiste, que Saint Laurent a été vraiment le premier, le seul à faire. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un comme Bernard Blisten, par exemple, qui est un spécialiste de l'art moderne et contemporain, qui dit que c'est une sorte de manifeste. Il se passe quelque chose. Définitivement, il change le rapport entre l'art et la couture. Et c'est aussi à partir de là qu'on commence à regarder la mode d'une manière un petit peu différente. Pour la maison, pour l'histoire de la maison, ça a évidemment été une collection extrêmement importante. Une collection d'ailleurs qui a été qualifiée par la presse, dont le Women's Wear Daily, de révolutionnaire. On propose quelque chose de totalement nouveau, d'extrêmement moderne, d'abstrait, de géométrique, avec une technique aussi extrêmement pointue en fait. Parce que pour arriver à rendre ces lignes géométriques, tout en arrivant, si vous voulez, à ne pas faire de distinction entre les différents carrés qui sont en patchwork, c'est une vraie innovation technique. On a l'impression que c'est simple.
On a l'impression vraiment.
C'est pas dessiné, hein. C'est vraiment un empiècement en fait de différents morceaux de tissu. Donc à plusieurs niveaux, finalement, cette robe est révolutionnaire.
Mondrian, on le rappelle, est un peintre hollandais.
Oui.
Bien sûr, qui a donc influencé Yves Saint Laurent. Comment il l'a rencontré dans sa vie, Mondrian ?
Alors, sa mère lui offre un livre. En fait, on sait que, si vous voulez, pour la collection 65, il avait déjà dessiné une partie des robes. Et en fait, sa mère lui offre un livre sur le peintre Mondrian. Et en voyant ce livre, il a une sorte de révélation. En fait, il se dit, je vais en faire une robe. Il faut que j'en fasse une robe. Et donc, il redécide une partie de la collection. C'est comme ça qu'il va finalement s'intéresser à Mondrian. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que finalement, Saint Laurent va aussi contribuer à la reconnaissance de ce peintre.
Ah, très bien.
Parce qu'il est peu connu finalement en France.
Ah bon, ah bon, d'accord.
Il faut attendre 1969 pour avoir une vraie rétrospective Mondrian au musée de l'Orangerie. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, et on a mis une photographie justement au musée en ce moment, c'est que pour l'inauguration de l'exposition, eh bien des mannequins portent les robes Mondrian. Comme si le tableau, en fin de compte, devenait vivant. Ça correspond aussi tout à fait à ce que pensait Mondrian, que l'art doit descendre dans la rue, qu'il doit être vivant, qu'il doit être porté finalement. Donc il lui rend hommage encore plus finalement en faisant ça.
Il y a 26 robes à l'époque Mondrian qui sont présentées lors de ce défilé, mais il y a aussi des robes inspirées par un autre artiste, un autre peintre d'origine russe, Serge Poliakov, avec une robe absolument délirante, une robe de mariée. Vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît, Mélissa ?
Alors, la robe
vous
de mariée.
Vous voyez la robe de mariée poupée russe, je sais pas,
oui,
on a l'impression
oui.
qu'elle est en laine.
C'est la Matryoshka, effectivement. Matryoshka. C'est la jolie robe de mariée de 65. Donc c'est du tricot, en fait. C'est de la laine tricotée,
ça, hein.
Exactement. Il y a une structure métallique pour faire tenir le sommet, hein, la tête. Et effectivement, c'est assez marrant et je dirais peut-être consternant pour certaines personnes, puisque la laine, le tricot, c'est un matériau parce qu'on qualifierait de plus noble, finalement.
Ouais.
Et effectivement, le retrouver ainsi sur un podium de haute couture, ça fait, c'est propre d'Yves Saint Laurent aussi.
Et les Mondrian, puisqu'on appelle ça maintenant les Mondrian, hein, les robes qu'on voit là quand on se balade dans le musée, juste après l'entrée d'ailleurs, ce sont celles d'époque, c'est des vraies ?
Ah oui, c'est les vraies.
Ah oui. On ne présente que des vraies dans un musée.
On va se poser la question.
Vous avez raison de signaler, ce sont même des prototypes. Ce qui caractérise la collection qui a été conservée par Pierre Berger et Yves Saint Laurent, c'est qu'elle est constituée à 90% de prototypes. C'est-à-dire le modèle qui a été confectionné dans la maison, sous la supervision d'Yves Saint Laurent, et qui n'a été porté qu'une seule fois, le jour du défilé. Ce qui en fait évidemment des pièces en très bon état de conservation, dans une unité de taille qui facilite leur exposition.
Mais rien n'était jeté alors ? Eh bien, enfin, de jeter ou donner, je sais pas. Évidemment, on n'allait pas
alors,
jeter une robe comme
non,
celle-là.
Non, jeter non plus. Hein, effectivement, le propre du Saint-Laurent, c'est un des premiers, même le premier, si
oui,
je peux dire,
oui, vous avez
si je me trompe, mais un des premiers à avoir conservé très minutieusement en fait les prototypes, tout ce qui est fiche de Bible, comme on l'appelle, donc la création, les croquis, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a même de présenter ces véritables trésors en fait du monde d'Yves Saint-Laurent.
C'est lequel, le seul créateur qui a conservé toute sa carrière ses prototypes.
Oui. Le premier.
Mais qu'est-ce qu'il faisait des prototypes, les autres?
Bah, il les gardait pas, il les soldait.
Il avait,
en fait, c'est Pierre Berger et Yves Saint-Laurent qui ont vraiment eu cette conscience patrimoniale extrêmement tôt. En fait, la mode n'avait pas vocation à être conservée. Comme son nom l'indique,
d'accord,
la mode se démode.
Ouais.
Et les maisons de couture créaient au fur et à mesure et ne gardaient pas nécessairement la totalité du processus créatif. Parce qu'ils ont gardé les modèles, bien sûr. Ils ont gardé aussi des modèles de clientes. Enfin, on a aussi racheté ensuite quelques modèles de clientes, mais ils gardaient tout le processus créatif, les dessins originaux, les fiches d'atelier, les planches de collection.
Formidable.
Donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on a toute la documentation inhérente finalement à la conception de ces robes.
Donc les robes qui défilaient, certains créateurs les offraient, les donnaient, les soldaient ou les offraient aux mannequins même, je crois d'ailleurs.
Oui, il y avait aussi une forme de rétribution.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais Saint-Laurent les a gardées, ben, tant mieux. Lorsqu'on visite le musée Yves Saint-Laurent avec vous, par exemple, Mélissa Netto, après cette première étape consacrée à la collection 65, où va-t-on ? Eh ben, on va vous suivre dans un instant. Montez par exemple à l'étage supérieur, là aussi vous verrez des merveilles vous attendent, des souvenirs très émouvants. On va retrouver tout ça et nos invités dans un instant. Ce sera tout de suite après Accès Privé. Et aujourd'hui, Accès Privé, c'est notre reporter curieuse, Muriel Giordan. Elle se faufile toujours dans les endroits interdits. Ben justement, elle a eu la chance d'accéder au sein des saints, les réserves du musée Yves Saint-Laurent. On écoute ça dans un instant.
France Bleu Paris. France Bleu.
Allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire, allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups, allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout.
Ça fait longtemps que je viens de me répartir de ce petit village qui m'a vu grandir. Je connais la route, les chemins, le moindre recoin. Y'a plus rien qui me retient, à part mon pote Lucien. On se connaît depuis l'époque, puis le bac à sable, la morvonne et les billes cachées dans le cartable. Dans la cour d'école, on les a rendus folles. Je compte même plus le temps passé en hors de colle. Bien sûr que j'ai fait pleurer ma mère, mon père, ma tante et ma grand-mère. Je suis comme je suis, un petit schnappant qui aime bien avoir la tête en l'air. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis plus d'humeur, je suis plus dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Un point c'est tout, un point c'est tout, un point c'est tout.
On a fait un groupe depuis 2-3 semaines avec les copains, on aimerait faire quelques scènes, mais bon pour l'instant y'a rien. On s'entraîne dans le garage, les voisins pour des fous nous prennent. Tu veux connaître notre style, un mélange de pop, reggae, variété, avec une touche d'hip-hop. Hiver comme été, on est qu'une bande de potes. Et crois-moi, c'est sûr qu'on va marquer l'époque. Comprends que je ne veux pas rester planté là pour pousser, qu'il faut savoir se planter. Pour l'instant je te l'accorde, je n'ai qu'un plan A. Mais qui sait, demain j'aurai peut-être un plan B. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, non, je suis pas dans le coup. Moi je veux juste partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs. Je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous. Le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Allez leur dire, allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire,
allez leur dire.
On n'a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, un point c'est tout.
Allez leur dire que là je m'en fous, je suis pas d'humeur, je suis pas dans le coup. Moi je veux partir, aller voir ailleurs, je veux voir du pays, sortir de ce trou. Je veux juste faire les 400 coups. Allez viens avec moi, on tente le coup. On a rien à perdre, on est jeunes et fous, le monde nous tend les bras, d'un point c'est tout.
Sylvain Harek chantait Allez leur dire sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Et on se retrouve dans un instant avec Accès Privé, Muriel Giordan, et toujours au musée Yves Saint-Laurent.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu.
Partout sur France Bleu, tous ceux qui font bouger les choses sont dans Une Heure en France.
Direction un ancien repère de pirates avec l'histoire de l'estuaire de la Loire. On bétifie devant un bébé lémurien qui vient de naître aux eaux de Mulhouse. Et on s'enflamme avec le spectacle Tango Passion.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, Une Heure en France sur France Bleu, dès 13h.
Sur France 3, série policière inédite. Marion est mère de famille et gère une équipe de police judiciaire à Lyon. En même temps qu'elle traque un tueur en série, on lui détecte une tumeur au sein. Deux combats qu'elle veut mener de front, mais à quel prix? Sous la peau, à découvrir ce soir à 21h.
France 3, vous êtes au bon endroit.
France Bleu Paris.
Midi et demi, c'est l'heure de retrouver Muriel Jourdan et Accès Privé. Nous voici donc dans les réserves très privées du musée Yves Saint-Laurent. Découvrez en exclusivité une partie des œuvres du grand couturier qui sont vraiment conservées dans cet endroit secret dont le climat est très contrôlé, bien sûr. Personne, hormis les conservateurs, ne peut accéder à cet endroit. Alors une visite inédite à vos côtés. Aurélie Samuel, vous en souvenez, directrice des collections du musée.
Donc pour aller en réserve, ça ne se passe pas comme ça. Je ne peux pas me contenter de venir avec mes bottes,
il faut des vous habiller. Donc ça, il faut mettre des surchaussures.
D'accord. Alors je vais m'équiper.
Vous allez peut-être vous asseoir. Je vais en prendre pour moi aussi. Et des blouses. L'idée, si vous voulez, c'est de limiter au maximum les risques de contamination et de poussière lorsqu'on rentre en réserve. Donc il y a un certain nombre de protocoles à prendre, indépendamment des protocoles de sécurité, évidemment, puisque tout est badgé, personne n'a accès comme ça à la réserve, sauf l'équipe de la conservation, mais aussi de limiter au maximum ce qu'on pourrait apporter de l'extérieur comme micro-organisme qui pourrait contaminer les collections. Donc on met des blouses et des surchausses.
Voilà. Nous entrons dans la réserve.
Donc la réserve, c'est à peu près 400 mètres carrés, en tout cas pour les textiles. On a environ 7000 pièces textiles, 5000 ensembles complets haute couture, donc c'est assez colossal, qui ont été conservés donc depuis l'origine. La réserve est séparée en deux parties. Une première partie qui est consacrée aux cours, classée par ordre chronologique, et une seconde partie sur le lot.
Non seulement il n'y a pas de bruit là, il n'y a que ce... Parce que je pense que c'est l'aération, c'est la clim, hein, parce qu'évidemment il faut conserver une température adéquate. C'est très clinique, environnement stérile.
Ah oui, complètement. On est dans un environnement alors qui n'est pas stérile, mais qui est le plus sain possible. C'est la raison pour laquelle on est effectivement chaussé de surchaussures, qu'on a des blouses. Ici, il y a une surpression en permanence pour qu'il y ait le moins de poussière possible qui rentre. Toute la réserve est piégée, évidemment, pour éviter les contaminations d'insectes. Tout est extrêmement propre, tout est dans le noir. Alors c'est vrai, quand on rentre, il fait très froid.
Oui, il fait quelle température? Là, on a l'impression qu'il...
Alors, l'idéal pour les textiles, c'est entre 18 et 19 degrés. On aussi entre 19 et 20 degrés et on a 55% d'humidité dans l'air. Il est vrai qu'on pénètre dans un endroit, d'abord où peu de gens viennent, évidemment, à part la conservation pour travailler, un endroit qui est assez sécuritaire, évidemment, et un endroit qui est cliniquement totalement sain pour la conservation des œuvres.
Nous nous avançons et là il y a important.
Et puis je vais vous montrer qu'en fait derrière ces armoires qui paraissent un petit peu austères, eh bien lorsqu'on les ouvre...
C'est trop marrant la façon dont vous ouvrez ces armoires.
Ce sont des compactus, donc en fait ce sont...
C'est comme une manivelle.
Exactement, c'est une manivelle. Alors il y a beaucoup de réserves, notamment les réserves des archives ou des bibliothèques qui sont faites comme ça. Ce sont des compactus, donc des armoires métalliques qui sont cuits en fait à une peinture donc pour avoir quelque chose de totalement neutre, qui sont montés sur des rails et lorsque vous les ouvrez, eh bien vous avez des travées en qui montent toutes les collections de Saint-Laurent.
À je vais la m'évanouir. C'est comme un dressing géant.
C'est ça, c'est un dressing géant de luxe, très bien conservé, qui en fait est conservé de deux manières, donc soit sur cintre, soit à plat, pour les œuvres évidemment qui nécessitent d'être totalement à plat. Ici, je vous montre l'un des chefs-d'œuvre évidemment de Saint-Laurent, qui est la veste Van Gogh, qui est absolument somptueuse, qui a nécessité plus de 600 heures de broderie et qui est donc inspirée évidemment par le tableau de Van Gogh.
Nous nous avançons dans ce petit couloir. Il y a des fringues partout, de la fourrure. C'est exceptionnel, c'est un dressing géant. Tout est classé par année et c'est suspendu sur des cintres rembourrés.
Oui, ce sont des cintres en fait qui sont gainés pour que, évidemment, il n'y ait pas de déformation possible.
Imaginez-nous au milieu de ces fourrures sur notre gauche. Là,
on a du piton.
On a du piton, des robes, des très longues robes, noires, de toutes les couleurs.
Des jardins fleuris, inspirés de Bonnard. On a vraiment toute l'histoire, finalement, d'Yves Saint-Laurent. Mais c'est aussi un endroit où on travaille sur les collections, on travaille sur les objets et on les regarde surtout. Et avant tout, travailler sur un objet, l'étudier, c'est d'abord le regarder.
Merci Muriel et merci Aurélie de nous avoir ouvert ces portes absolument interdites, mais c'est fascinant tout ça. Et ben on va continuer la visite.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Alors si vous nous rejoignez, vous écoutez France Bleu Paris Découverte. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le musée Yves Saint-Laurent. Nous sommes au 5 avenue Marceau dans le 16e. C'est là que pendant 30 ans, Yves Saint-Laurent et son équipe ont inventé, imaginé, créé, présenté ce qui lui a permis d'entrer dans la légende et de devenir le génie de la haute couture que l'on sait. La collection historique de 1965, inspirée en partie par le peintre Mondrian, est actuellement présentée. Ça, c'est au premier niveau. On en parlait il y a quelques instants. Mais on va poursuivre la visite avec nos invités, donc Aurélie Samuel et puis Mélissa Netto, guide pour Cultival. Alors, avant de pénétrer dans les salons donc situés à l'étage au-dessus, il y a un demi-étage avec une petite salle de projection et un documentaire absolument émouvant parce que c'est voilà, racontez-nous ce qu'on peut voir.
Oui, alors c'est l'aigle à deux têtes que vous mentionnez, j'imagine. Oui, exactement, c'est un documentaire assez fantastique où vous avez des images d'archives, vous entendez monsieur Saint-Laurent parler, monsieur Berger. Donc ça retrace en fait tout leur univers à eux deux qu'ils ont su concevoir ensemble lorsque monsieur Saint-Laurent a décidé d'enfin monter sa propre maison haute couture. Donc on retrace comme ceci toute leur action finalement dans la maison haute couture, dans leur vie personnelle également, on les voit évoluer au sein de leur propre maison, donc c'est assez intéressant.
Et alors on découvre finalement, on dit toujours Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, mais le créateur c'est Yves Saint-Laurent, on découvre l'importance de Pierre Berger. Quel était son rôle selon vous, Mélissa?
Je pense que c'est un grand mécène.
Mélissa ou Aurélie,
je regarde Aurélie. Mais Aurélie va me seconder, mais effectivement je pense que Pierre Berger...
Mécène, d'accord, mais pas que.
Mais pas que.
Je crois que cette maison, c'est vraiment... C'est pour ça d'ailleurs que ce film, on l'a appelé l'aide à deux têtes, c'est que c'était vraiment finalement une maison qui était dirigée et par Pierre Berger et par Yves Saint-Laurent. Ils se sont totalement complétés en fait. Il y avait une forme de complémentarité, l'un à la création, l'autre à la gestion. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que Pierre Berger le dit, il a plié finalement la gestion à la création et pas le contraire, ce qui se serait fait finalement aujourd'hui. Il n'a jamais contraint Saint-Laurent à la création, il lui laissait une totale liberté et en même temps il faisait en sorte que cette maison soit rentable, soit saine financièrement.
Car elle l'a toujours été.
Elle a toujours été et je pense que c'est vraiment eux deux qui ont porté la maison. On ne peut pas vraiment le séparer l'un de l'autre.
On comprend beaucoup mieux en allant voir ce film et puis il y a leur passion pour le Maroc et puis il y a leur passion pour l'art en général qu'on découvre. Bon bah voilà, ça dure un quart d'heure à peu près et ensuite donc on grimpe un petit peu quelques escaliers. Et là, on passe où, Mélissa?
Alors là, on passe à l'hommage à la mode. C'est une salle absolument spectaculaire. Ah. C'est le spectacle. On en prend plein les yeux. C'est vraiment très joli. Tout est classé par ordre chronologique, si vous voulez. Vous avez deux podiums et un podium central. Quand on regarde le podium qui est plutôt à gauche, on va avoir des tenues antiques, médiévales, Renaissance, 17e. Et puis, on va passer ensuite sur le podium plutôt sur le côté droit, où là, on entre en fait dans le 20e siècle. Je vous dis pas tout, parce qu'il faut laisser place aussi un petit peu au mystère et voilà, vous donner envie de revenir autant de fois que...
Et alors, on pousse une porte... Non, on pousse pas la porte d'ailleurs. On passe dans le... Il n'y a pas de porte, mais on arrive là dans le bureau. Je dirais le Saint-Dessin parce qu'on en parlait d'un, mais c'est vraiment là. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que le bureau, il était occupé hier, quoi. C'est ce que vous avez voulu dans ce musée.
Absolument. On voulait pas du tout créer un mémorial. L'idée, c'était pas de visiter une forme de sacro-sainte pièce. Pas du tout. C'était un lieu extrêmement dynamique. On voulait que les gens sentent ça, cette créativité. C'est là que tout se faisait. C'était calme, c'était clair, assez blanc, justement, pour pouvoir concevoir aussi toutes ces couleurs. Mais on voulait justement restituer cette ambiance. En fait, le studio, il est resté tel quel. On n'a pas bougé, on n'a rien changé. Le bureau de Saint-Laurent est resté en l'état, avec ses affaires personnelles.
Et il y en a.
Et il y en a. Son liège, où il y avait vraiment toutes les photographies, les dessins, dont il aimait s'entourer, en fin de compte, pour créer. Ce qu'on a fait au moment de l'ouverture du musée, c'est qu'on a réinstallé la table des collaborateurs, qui était une table ancienne, c'est une table authentique. D'ailleurs, tout est authentique, les téléphones, les lampes,
on a récupéré,
même les agrafeuses, on a absolument tout récupéré. Et en même temps, on voulait justement montrer ce qui se créait, en fait, dans ce studio. Et pour lui donner ce cadre authentique, on a sorti les choses qui sont conservées, en fait, au musée, les échantillons, les boutons, etc. Et on a fait venir d'anciennes collaboratrices du studio qui ont travaillé avec Saint-Laurent et qui se sont installées et qui ont placé leurs affaires, qui ont sorti leur éphéméride. Et c'est ce qui donne, je crois, ce caractère extrêmement authentique. Parce que c'était important pour nous, justement, qu'on comprenne aussi tout ce qui se passait dans ce studio.
Question à toutes les deux. Est-ce qu'il y a un objet particulier, quelque chose de particulier qui vous procure, je sais pas, une émotion quand vous rentrez dans ce bureau? Non, vous avez jamais?
Si,
moi, c'est les ciseaux.
Si, y en a.
Les ciseaux qui sont posés là, à droite.
Bon, moi, c'est ses lunettes, mais parce que peut-être j'en porte.
Moi, ce serait plutôt la badine de Monsieur Dior, en fait. C'est deux objets, le maître à tissu et la badine, la petite canne qui repose sur son bureau. C'est le début, en fait. Hein. C'est Yves Saint Laurent, tout jeune, qui débute. Ouais. Donc,
c'est un moment assez émouvant dans la visite. On a parlé de ce que l'on voit actuellement, mais que détient le musée Yves Saint Laurent? On en a parlé aussi il y a quelques instants. Combien de créations sont archivées déjà? Dites-moi tout à l'heure.
7000 textiles, 5000 ensembles complets. C'est pour la haute couture. Hein. Nous avons aussi un ensemble Rive Gauche, à peu près 3000 vêtements. Et il y a aussi, bien sûr, les accessoires. Hein. Environ 15000 accessoires. Parce que Saint Laurent concevait toutes ses silhouettes accessoirisées. D'ailleurs, il aimait dire qu'il aimait qu'une robe soit sobre et mais qu'un accessoire soit fou. C'est aussi ce qui complétait vraiment la silhouette. Alors, il y a les bijoux.
On va en parler dans un instant, si vous voulez bien, avant de sortir du musée. Il nous reste encore un petit peu de temps, heureusement.
France Bleu, Paris. France Bleu.
Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet.
Sign of the Times, Harry Styles, sur France Bleu Paris. On retourne au musée Saint-Laurent juste après ça.
France Bleu Paris vous ouvre son antenne.
La semaine dernière, 2 heures, 5 stations. J'ai dû faire demi-tour et poser un congé.
Racontez votre vécu. Mettez du concret dans le débat. Logement, sécurité, services publics, écologie.
Demain, ça sera encore une autre profession qui sera touchée.
Vos idées, vos expériences, vos solutions, c'est à vous de le dire. Chaque jour dans France Bleu Paris Matin, dès 8h20. Vous êtes soucieux de mieux manger, plus sain, plus gourmand, plus varié? France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Menton, dans les Alpes-Maritimes, avec un producteur d'agrumes d'exception de la Maison du Citron. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Cette année, c'est décidé, vous voulez changer de boulot. Témoignages, conseils de coach, de DRH et d'actifs qui ont réussi leur reconversion. Venez assister à une soirée exceptionnelle à la Maison de la Radio le 13 mars et échanger directement avec les intervenants. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec Le Parisien aujourd'hui en France. Mercredi 13 mars à 19h à la Maison de la Radio. Informations et réservations sur maisondelaradio.fr. Un événement France Info.
Avec Dentsu Aegis Network, acteur majeur de la communication et de la transformation digitale des entreprises. Avec Le Bon Coin, l'acteur majeur de l'emploi dans votre région. Rendez-vous sur la rubrique Emploi du Bon Coin.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Que l'on soit fan de haute couture, de mode ou pas, que l'on soit spécialiste fashion victime ou pas, le musée Yves Saint-Laurent ne vous laissera pas indifférent l'expérience. Vous savez, voir de près les créations du maître, là où elles sont nées en plus, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Profitons-en. Le musée Yves Saint-Laurent, je le rappelle, se trouve 5 avenue Marceau dans le 16e arrondissement. C'est à deux pas du métro Iéna et on peut le visiter avec les guides de Cultival, Cultival.fr et notamment avec vous, Mélissa. Rappelons quand même à ceux qui nous écoutent que pour le visiter, grâce à Cultival, Cultival.fr, en plus, l'avantage, c'est que c'est avant l'ouverture.
Exactement, ce sont des visites très confidentielles en fait du musée. Donc avant 11h, avant ouverture, vous avez le privilège de pouvoir être guidé à travers ces espaces avec maximum, grand maximum 15 personnes dans le groupe. Donc c'est un grand privilège en fait.
Allez voir, allez jeter un œil sur cultival.fr. Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h et il y a des nocturnes le vendredi à 21h. Alors reprenons cette visite, malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, mais faut sortir à un moment donné et avant de sortir, on se retrouve en redescendant d'ailleurs l'étage où nous étions il y a quelques instants devant, dans le bureau du maître. Il y a un petit endroit comme ça où, qui décrit le style Yves Saint-Laurent. On le résumerait comment d'ailleurs ce style Yves Saint-Laurent, Mélissa Nett. Mais deux, pardon, Aurélie Samuel.
Bah, le style Yves Saint-Laurent, il est intemporel et universel. Et c'est bien lui qui disait « les modes passent, le style est éternel ». Il a su créer vraiment une silhouette, une façon de s'approprier le vêtement et une façon de signifier finalement ce que l'on était à travers le vêtement. Il n'a pas simplement créé une robe ou il n'a pas simplement eu à cœur d'embellir une femme. L'idée, c'était qu'on arrive vraiment à s'attribuer son vêtement et à en faire une marque en fait de sa personnalité.
Donc ce podium là à droite, il résume un petit peu le style.
C'est-à-dire il y a des smokings évidemment. Ouais, Saint-Laurent, c'est l'inventeur du smoking en 66. Ouais. C'est quand même lui qui va féminiser une partie de la garde-robe masculine, pas du tout pour qu'une femme ressemble à un homme, mais bien pour qu'elle ait les codes en fait pour assumer les mêmes responsabilités qu'un homme, les cabans, les transparentes, la saharienne bien sûr, et tous ces styles, tous ces vêtements en fait vont être un leitmotiv durant toute sa carrière. Il va réinterpréter le jumpsuit aussi, qui est un vêtement utilitaire. Donc en fait, c'était une façon de montrer aussi la permanence de ce style. Le choc des couleurs qui était aussi extrêmement important. Saint-Laurent a été un des premiers à faire voisiner des couleurs qui n'étaient pas
à un moment donné,
voilà, censées aller ensemble, le rouge et le rose, le bleu et le vert. En tout cas en Europe, on n'avait pas l'habitude de ça, et ça il l'a pris du Maroc, il l'a pris de l'Asie aussi. D'ailleurs, on peut voir une partie de ses créations aujourd'hui aussi au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Il a pris vraiment cette couleur, cette teinture très particulière aussi en Afrique du Nord.
Alors avant de sortir, il y a une partie accessoire et puis il y a deux robes exceptionnelles qui ont été réalisées par Monsieur Saint-Laurent grâce à sa rencontre avec une femme sculpteur, Claude Lalanne. Ça aussi, c'est la modernité d'Yves Saint-Laurent, mettre une sculpture dans une robe,
alors,
pas facile à porter. Hein.
Bah, en même temps, Saint-Laurent, il s'est fait l'apôtre de la transparence, c'est-à-dire le corps que l'on voit à travers un vêtement sans nécessairement, enfin en le devinant sans nécessairement le révéler. Et là, il fait exactement le contraire.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, le corps est couvert par cette sculpture, qui est d'ailleurs faite à même le corps, hein, puisque ça a été sculpté sur le mannequin Verouchka à l'époque.
Ah, oui.
Donc en fait, il fait sortir les formes au-dessus de la transparence.
Ouais.
C'est assez intéressant comme démarche. Mais c'est surtout, ça signe la collaboration collaboration entre deux artistes. Une sculptrice, bien sûr, Claude Lalanne, et Yves Saint-Laurent. Et ils vont travailler ensemble. Il n'y a pas d'inspiration réciproque. Donc, en fait, il la rencontre dans les années 60. Il voit chez elle, justement, son travail sur le corps humain. Cette technique qu'elle utilise permet de restituer tous les détails du corps. Et il a envie de travailler avec elle en 69. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a présenté les pièces, puisqu'en 2019, nous sommes à l'anniversaire de cette collection.
À vous de tenter l'expérience. Je vais rappeler l'adresse 5 avenue Marceau dans le 16e arrondissement pour en savoir plus sur l'histoire de ce lieu, de ses œuvres, et puis bien sûr de son maître. Et puis n'oubliez pas cultival.fr pour ses visites guidées avant l'ouverture. Merci beaucoup à nos deux guides du jour.
Merci à vous.
Aurélie Samuel, Mélissa Netto, merci d'être passée par ici aujourd'hui. À bientôt.
France Bleu Paris.